Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
20 ans que Caroline Sonrier a pris la tête de l'Opéra de Lille. Et pourtant, évidemment, jamais elle n'a connu une saison pareille, une telle année. Ce matin, on va se projeter sur la prochaine saison. Mais on va aussi, avec vous, Caroline Sonrier, voir comment le monde lyrique change et a changé. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, ces dernières semaines, ces derniers mois, comment la vie artistique, la vie du spectacle a-t-elle repris à l'Opéra de Lille?
Alors, c'est une reprise étrange, hein, parce qu'on était en toute fin de saison, pendant toute cette période, la très grosse difficulté, ça a été de ne pas pouvoir se projeter finalement, parce que on était toujours à 4-5 semaines devant nous, et pour l'Opéra, c'est évidemment un peu compliqué. Donc on avait prévu, nous, une production de Tosca, mais qu'on avait justement complètement transformée, et plutôt pour en faire une captation, mais pas une captation de spectateurs, si je puis dire, ou en tout cas d'un spectacle, mais vraiment de faire une mise en scène pour le film, cinématographique en quelque sorte. Et donc évidemment, il n'y avait pas vraiment la possibilité d'accueillir du public, ce qui est un crève-cœur pour une œuvre comme celle-là, évidemment, qui est tellement, tellement pour le grand public. Mais donc, on a fait une captation, on l'a retransmise dans 17 villes de la région. Donc c'était un peu notre ouverture hors les murs. Et puis on a eu 4 concerts qu'on a pu réaliser. Et puis on a une autre ouverture hors les murs, qui est un spectacle, enfin une création d'Anne-Thérèse de Kersmecker. Et qu'elle souhaitait faire un projet dans un musée. Et donc, je lui ai proposé de le faire au Louvre-Lens, qui est évidemment un bâtiment, un musée, un lieu absolument extraordinaire. Donc ça se passe à la Galerie du Temps, et les dernières représentations étaient jusqu'à dimanche dernier.
Avec votre expérience, Caroline Sonrier, vos 20 ans à la direction de Lille, qu'est-ce qui vous a ébranlé le plus dans ces presque 15 mois d'arrêt quasi total ?
Ce qui m'a le plus ébranlé, je crois, un peu comme pour toutes les équipes des maisons, c'était cette coupure, cette rupture avec le public. D'une part parce qu'elle nous semblait, pas juste et j'allais dire dangereuse, oui, en tout cas avec une réelle problématique de couper le public et la population d'une manière générale de la culture. De couper d'ailleurs autant les théâtres que les musées. Enfin, c'était pas une question simplement des opéras, bien sûr. Et qui nous semblait, nous qui sommes en permanence en lien avec ce public, et on voit à quel point la culture a un vrai rôle social à jouer. En tout cas, ça fait vraiment partie de notre projet à l'Opéra de Lille. Et donc ça a été le plus difficile. Et puis, donc, on a continué à répéter, à créer les spectacles. On n'a pas arrêté pendant toute cette période-là. Et là aussi, on s'est rendu compte à quel point le spectacle n'existait pas finalement sans le public, c'est-à-dire qu'il perdait tout son sens, les artistes eux-mêmes, nous aussi, on était à la fois tous extrêmement heureux et même dans une intensité rare de créer, dans des difficultés aussi qui créaient aussi forcément des moments de tension, parce que c'est très difficile, les chanteurs travaillent avec des masques, enfin tout est compliqué. Et à la fois, cette perte de sens, oui, de ne pas pouvoir à un moment donné se retrouver confronté à un public, échanger avec un public. Oui, je crois que ça a été la chose la plus difficile.
On va se projeter sur la saison prochaine. Au programme de la prochaine saison, ce sera en décembre, Didon est né, Henry Purcell avec Emmanuel Haïm et le concert d'Astrée. En voici un extrait.
Fellow sailors, come away, your anchors be weighing, time and tide will admit no delay. Take a boozy short leave of your nymphs on the shore, and silence their mourning with vows of returning, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never, no, never intending to visit them more.
Come away, fellow sailors, come away, 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 come
Le début du troisième acte de Didon aigné d'Henry Purcell, avec, on a entendu ici, la voix de Paul Agnew, les European Voices et le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. Ce sera une production en décembre à Lille. Caroline Sourier, directrice de l'Opéra de Lille, est notre invitée ce matin. Ce compagnonnage au long cours, peut-on dire, avec Emmanuel Haïm. Qu'apporte-t-il, qu'a-t-il apporté à votre maison? En quoi est-il fécond?
Oh, bah c'est un partenariat formidable parce que, alors d'abord pour l'histoire, moi je suis arrivée en 2001 et l'opéra a ouvert en décembre 2003, hein, donc on a tout reconstruit, il y avait plus rien, plus d'équipe, plus de projet. Et Emmanuel Haïm elle-même a créé son ensemble, je crois que son premier concert ça date de 2001. Donc on était vraiment à peu près au même moment en train de lancer des projets. Je connaissais Emmanuel par une précédente production à laquelle elle avait participé quelques années auparavant et que voilà à laquelle j'avais participé et donc je lui ai proposé ce projet de venir en résidence. Alors, pour une raison, c'est que l'Opéra de Lille a rouvert sans orchestre permanent à demeure. Il y a évidemment l'Orchestre de Lille qui est à Lille, mais qui a une mission importante en région, donc avec une production par an que l'Opéra de Lille peut réaliser pour nous, pour une production lyrique. Mais évidemment, de toute façon, nous devons collaborer avec d'autres orchestres. Et pour moi, évidemment, l'ouverture d'une part à ce répertoire baroque, il est indispensable aujourd'hui. Enfin, voilà, du baroque et jusqu'à la création. Donc, on a aussi d'autres ensembles résidence, mais donc de pouvoir le faire avec une personnalité comme Emmanuel et de le faire au long cours, c'est-à-dire d'avoir un véritable trajet à proposer au public. On est souvent sur des œuvres qui sont pas très connues du public et donc le fait d'avoir ce point de repère, cette référence avec Emmanuel, avec le concert d'Astrée que le public connaît bien maintenant évidemment, on a pu vraiment faire un parcours donc avec cet ensemble autour de cette musique qui évidemment reste complètement à découvrir.
Donc Lille est devenue une terre baroque petit à petit.
Oui, on a une production d'opéra par an, hein, donc c'est pas non plus énorme. Alors cette année, on en a deux, il se trouve, puisque la deuxième dont vous venez de parler, qui est Didon et Aîné, est une production que l'on fait en coproduction avec l'Opéra de Genève. Et donc, comme il y avait cette opportunité, on invite cette production. Mais la première production de l'année qu'on va faire, c'est Idomeneo de Campra, là, qui est pour nous un grand événement.
Et qui sera sur France Musique d'ailleurs.
Voilà, qui sera sur France Musique, en octobre. Et effectivement, il y a une production par an. Donc voilà, c'est des progressions comme ça que l'on peut faire avec les ensembles en résidence qui permettent à un public de non pas venir voir un spectacle, mais de suivre aussi le parcours d'un artiste, d'un ensemble. Je crois que c'est ça qui me semble important dans une résidence.
Alors cette nouvelle saison, cette prochaine saison à l'Opéra de Lille, Caroline Sourier, comment... Sans s'arrêter sur tous les spectacles, mais comment vous l'avez imaginé, comment vous l'avez conçu? Et puis, on pense toujours que c'est imaginé des années en avance. Vous avez dû l'adapter face à la pandémie?
Oui, ça a été une vraie question, effectivement, de se dire comment on peut adapter une saison alors qu'évidemment tout est programmé chez nous de 3 ans à l'avance. Il a quand même fallu faire des modifications, mais on reste évidemment sur des rythmes habituels de production qui se tiennent régulièrement dans l'année. Il n'était pas question d'aborder tout d'un coup une thématique particulière donc tout ça évidemment était déjà bien sur les rails. Je dirais que la seule petite chose que j'ai changée, c'est d'essayer de mettre des choses pendant les vacances scolaires. On va en faire cet été et puis aussi un petit peu au mois de février prochain. C'est cette idée de se dire que il va y avoir aussi quand même une vraie fracture sociale et une vraie difficulté pour un certain nombre d'habitants de la région et que on puisse aussi pendant les vacances scolaires peut-être faire des propositions, ce qui pour les opéras est pas toujours simple parce qu'il y a des moments où il faut qu'on ferme pour répéter et pour préparer les productions et en général on fait ça pendant les vacances. Mais voilà, donc c'est vraiment la toute petite le tout petit changement. Alors cette saison elle est bâtie sur un peu des à la fois sur un peu ces grands héros, ces grands récits avec justement des figures comme Idoménée, comme Didon et Aîné, mais aussi on va parler des un petit peu de ces métamorphoses, alors inspirées des métamorphoses d'Ovide, mais bon voilà, ces grands thèmes aussi ancien, mais aussi ce côté un peu fantastique, fantaisiste. Bon, il y a Idoménée qui est évidemment un grand opéra baroque, opéra ballet français, donc dans des grandes dimensions majestueuses et grandioses. Et puis il y a aussi L'enfant, les sortilèges, Le songe d'une nuit d'été, où là on est vraiment dans la féerie, dans la fantaisie. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux choses-là, et je dois dire que ce côté un petit peu féerie, fantaisie et fantastique me plaît bien dans cette période, dans cette idée de que l'opéra soit à la fois exigeant mais aussi ouvert à tous et accessible à tous.
Et toujours de la création, c'est aussi une... On parlait du baroque, il y a aussi cette marque de fabrique de la création à l'Opéra de Lille.
Oui, c'est évidemment très très important que la création soit toujours
deux
présente.
Sur sept quand même.
Alors 2/7, effectivement. Oui, j'avais pas
sur cette production de création.
Oui, oui.
C'est une part importante.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, on a un grand événement, et alors on en est très fiers puisque cette création vient d'obtenir le prix Fedora, qui est un prix européen, donc décerné par un groupe de mécènes qui s'est réuni et donc qui tous les ans décerne un prix pour la création.
Avant la création, en fait. Enfin,
voilà,
c'est un prix
sur le projet. Like Flesh. Et donc, cet opéra, effectivement, c'est Like Flesh, qui est un opéra composé par Sivan Eldar, une jeune compositrice, avec Cordelia Lynn aussi pour l'écriture du livret. Et je suis très, très fière d'avoir réuni cette équipe, cette jeune équipe qui est vraiment très, très brillante, un projet passionnant, qui sera mis en scène par Sylvia Costa et avec l'ensemble Balcon, Maxime Pascal, qui est aussi un ensemble. Alors voilà, qui va démarrer une résidence, effectivement, et en tout cas qui est déjà un ensemble voilà fidèle invité de l'Opéra de Lille.
Ravel, L'enfant et les sortilèges en février. Ravel, la rhapsodie espagnole, en voici un extrait avec l'orchestre de la région, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch.
Thank you.
Habanera, extrait de la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel avec l'Orchestre National de Lille, dirigé ici par Alexandre Bloch, son nouveau et jeune chef directeur artistique. Caroline Sonrier, la directrice de l'Opéra de Lille, est notre invitée ce matin. Il y a une production, une seule production avec l'Orchestre National de Lille chaque année. Quel est votre rapport avec l'orchestre de la région à l'Opéra ?
Oh bah c'est une relation évidemment voilà de connivence, de fidélité et surtout c'est notre grand orchestre régional. Bon effectivement avec Alexandre Bloch qui vient de diriger pour la première fois l'Opéra de Lille avec Tosca. Il est arrivé alors il y a déjà quelques années, mais compte tenu de nos agendas déjà remplis d'un côté comme de l'autre, on n'avait pas encore pu collaborer. Donc je dois dire que ça a été une très très belle rencontre. Hein. Alexandre est quelqu'un de à la fois d'une très grande précision dans le travail, mais aussi d'un grand enthousiasme et d'une grande énergie, donc ce qui est important aussi dans ces projets. Tous les ans, donc on a plutôt des ouvrages, je dirais, de cette période romantique au début XXe siècle, puisque c'est notre seul orchestre symphonique à disposition. Mais il se trouve que là, on a plutôt choisi de faire un Britten, de proposer Britten, donc avec Le Songe d'une nuit d'été, qui est évidemment une œuvre magique et qui sera mise en scène dans une nouvelle production avec Laurent Pelly, voilà, qui a aussi ce grand talent pour ses œuvres peut-être plus féeriques, plus fantaisistes. On sait à quel point il peut être habile dans ce domaine. Et c'est une œuvre extrêmement, extrêmement touchante sur un livret qu'on connaît, absolument magnifique. Donc ce sera effectivement un peu autre chose puisqu'on est plutôt avec l'Orchestre de Lille sur du grand répertoire. Ça a été beaucoup des Verdi, musique française ou encore Wagner, Vaisseau fantôme il y a quelques années. Voilà, donc on est plutôt sur ces répertoires-là.
Ça, ce sera en fin de saison prochaine, dans quasiment
au mois de mai.
Un an. Mm-hmm. Caroline Sonrier, en septembre dernier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vous a confié une mission sur la politique de l'art lyrique en France. C'était il y a, si je compte bien, 10 mois. Où en est cette mission ?
Alors, c'était effectivement, oui, on a commencé en novembre dernier. Cette mission, je dois rendre le rapport le mois prochain. Donc, effectivement, les échéances arrivent vite. On en est dans la dernière phase. C'est une mission qui était passionnante parce que elle arrive à un moment, je trouve. Alors, d'une part, à un moment, je crois, où tout le monde a envie de réfléchir sur l'avenir et se pose des questions sur l'avenir. Mais aussi, je trouve une période très intéressante et que finalement je connais bien, si je puis dire, puisque effectivement, comme vous le disiez au début, j'ai commencé il y a 20 ans et les opéras se sont totalement transformés depuis 20-30 ans. En termes d'ouverture au public, en termes d'ouverture artistique, on n'est plus du tout sur ces maisons fermées, réservées aux abonnés, avec un public vieillissant. Les publics se sont beaucoup diversifiés. On fait des grands projets participatifs avec des enfants dans des dimensions qui sont souvent très importantes. À l'Opéra de Lille, on a un projet qui s'appelle Fine Oreille, donc qui réunit 350 enfants. Enfin voilà, donc on est vraiment sur des actions à la fois artistiques, innovantes et aussi sur le plan social dans toutes les maisons aujourd'hui. Et finalement, cette image-là, elle n'est pas encore tout à fait passée autour de nous, à la fois auprès des responsables des collectivités territoriales ou auprès même d'autres structures culturelles, peut-être même auprès d'un certain public. Donc il y a tout un travail aussi à faire de mieux valoriser ces questions-là et puis surtout d'en faire une espèce d'état des lieux, de carte et de montrer aujourd'hui quels sont les enjeux justement des opéras pour l'avenir.
J'ai quand même quelques questions, sans éventer votre rapport qui sera donc remis le mois prochain, mais vous êtes une femme de parole libre, Caroline Sonrier. Est-ce qu'il y a trop d'opéras aujourd'hui en France ? Trop de maisons ? Une vingtaine, je crois ?
Trop de maisons, il n'y en a pas beaucoup, oui, effectivement. Hein. Il y a à peu près 25 maisons en France, ce qui est très très peu quand on compare aux centres dramatiques nationaux, par exemple. Donc, c'est justement un petit réseau. Et d'ailleurs, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est justement comment ces maisons d'opéra qui sont réparties sur le territoire, alors évidemment, il y en a plus en région sud que dans le nord de la France, par exemple.
Pour des raisons historiques ?
Pour des raisons, bien sûr, oui, historiques et de, voilà, de culture qui s'est développée différemment. Mais pour autant, il y a évidemment toute une partie de la population qui a difficilement accès à ces maisons. Et donc, comment les opéras peuvent aussi aller sur le territoire, sur le territoire de nos régions, pour aller à la rencontre d'un public qui peut difficilement nous rejoindre. Donc, non, je crois que les maisons, il n'y en a sûrement pas trop. On bénéficie souvent de très beaux bâtiments, qui ont été construits aussi pour cet art-là. Et puis, on est les derniers, peut-être, lieux de, finalement, de ces très grands spectacles. Le théâtre s'est beaucoup reconcentré sur des plus petits formats. La danse contemporaine aussi. Tout ça, d'ailleurs, pour des raisons économiques. Il se trouve que l'opéra, pour monter une œuvre, de toute façon, il faut beaucoup de monde dans l'orchestre, dans les chœurs, dans les solistes et autour.
Beaucoup d'argent aussi.
Et voilà. Alors, effectivement, ce sont des maisons qui coûtent cher, mais qui coûtent cher vraiment pour des salaires qui vont directement à l'artistique. C'est ça, notre budget. Il y a vraiment la part d'organisation et autres, elle est minime. On est vraiment dans d'abord une production artistique, et c'est effectivement des œuvres qui existent telles qu'elles sont. Donc on va pas les réduire pour trois chanteurs et piano, ça n'aurait pas de sens.
Ça vous inquiète quand on voit la mairie de Lyon baisser sa subvention à l'Opéra National de Lyon, peut-être aussi prochainement à Bordeaux?
Alors écoutez, Bordeaux, j'espère que non, mais en tout cas, Lyon, effectivement, et d'une manière générale, les baisses de subventions sont très inquiétantes parce que ça emmène les opéras vers une pente descendante, c'est-à-dire que moins il y a d'argent, moins il y a de production, on a des formations qui... De ce point de vue, jouent moins, mais sont quand même là, puisque ce sont des formations permanentes. Et donc, finalement, il y a quand même des charges qui continuent à être présentes. Donc, on est sur une pente descendante. Donc, non, il faut absolument qu'on arrive à un équilibre de financement qui permette de maintenir une activité à plein. Sinon, on est vraiment sur une double peine, en quelque sorte.
La saison prochaine, Campra Idoménée sera diffusée sur France Musique. C'était une production il y a quelques années. Je vous propose d'écouter un air d'Arcilda de Vivaldi avec Lisandro Abadi, le Collegium 1704, dirigé par Václav Lux. C'était à l'Opéra de Lille en 2017.
Che tra nobili procedono per della spera. L'esperto non pieno nel mare in costa. Thank you.
la sfera. Le sferbono pieno nel mare in costa. Nubi e procelle nel mare incostate, non perderà speme sferbono pieno nel mare incostante tra nubi e
La voix de Lisandro Abadi, le Collegium 1704 dirigé par Václav Loux dans cet air d'Arcilda de Vivaldi à l'Opéra de Lille en 2017. Caroline Sourier, la directrice de l'Opéra de Lille, est notre invitée ce matin. On a parlé de cette saison, on a évoqué aussi cette mission que Rosine Bachelot vous a confiée. Vous en remettrez les conclusions le mois prochain. Encore quelques petites questions. Caroline Sourier, il y a 20 ans quand vous êtes arrivée à la tête de l'Opéra de Lille, vous étiez assez seule en tant que femme à la tête d'un opéra, est-ce que les choses vont mieux aujourd'hui pour les responsabilités à la tête d'institutions culturelles, mais aussi pour ce qui est de la place des femmes compositrices, des femmes chefs d'orchestre? Les lignes bougent quand même.
Bah, pas beaucoup. Pour les maisons d'opéra, il y a deux femmes directrices d'opéra.
Donc Valérie Chevalier à Montpellier.
Voilà,
et vous.
Avec Valérie, on est les deux seules femmes, effectivement. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire non que ça bouge. Et toutes les dernières nominations ont été, effectivement, pour des hommes. Donc, non, là, il y a une vraie question, effectivement. Pour la part des chefs, heureusement, les choses bougent un peu. Grâce notamment, il y a eu ce concours Maestra qui a été organisé à la Philharmonie et on voit bien que finalement c'est aussi comme ça que les choses peuvent bouger et que l'attention peut être attirée et que on voit bien que c'est une question de visibilité finalement de ces femmes. Une fois qu'on les voit, une fois qu'on reconnaît leur talent, il n'y a plus aucune question qui se pose. Alors pour autant, on n'est pas sur une égalité, mais on a l'impression que les choses bougent un peu. Pour les compositrices, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Au Conservatoire de Paris, il y a des classes donc de composition avec très très peu de femmes dans ces classes. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment une question aussi de prise de conscience des femmes et qui doit venir beaucoup plus tôt dans la formation sur leur capacité à composer et à se faire reconnaître, et pas seulement pour des œuvres pédagogiques, mais aussi pour des grandes œuvres d'opéra. Donc c'est aussi pour ça que je suis très heureuse d'avoir Sivan Eldar pour cette création en janvier. Et je dois dire que je me suis aperçue aussi que depuis la réouverture de l'opéra en 2004, on n'avait jamais fait de création d'un opéra d'une femme. Et donc voilà.
C'est un mea culpa.
Ça a été, oui. En tout cas, je me suis donné comme objectif effectivement de faire cette recherche parce qu'encore une fois, les compositrices sont peu visibles. Elles sont très peu nombreuses et elles sont peu visibles. Et je suis très très heureuse d'avoir trouvé Sivan Eldar, qui est une magnifique artiste. Mais c'est une vraie question pour les compositrices, effectivement, où on a encore une fois ce sentiment que il y a un vrai problème de légitimité et qui vient d'assez loin, qu'il est probablement moins auprès des artistes asiatiques, où il y a un plus fort taux de jeunes artistes qui sont dans les classes de composition. Peut-être que c'est une question aussi de la forme d'enseignement en France. Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et c'est des discussions qu'on a eues avec, évidemment, les directeurs et directrices de conservatoires supérieurs qui sont très sensibilisés aussi à cette question.
Caroline Sourier, merci.
Merci à vous.
Vous nous avez présenté votre saison prochaine. Est-ce que ce sera votre dernière saison à l'Opéra de Lille ?
Ça aurait dû être ma dernière saison, mais finalement, je vais ajouter un mandat qui me permettra donc de rester jusqu'à juin 2025. Voilà, donc j'ai encore quelques années devant moi de grand bonheur avec les projets artistiques.
On se quitte avec un extrait de la musique de Palermo Palermo, le ballet de Pina Bausch, qui est aussi à l'affiche de la saison prochaine. Merci Caroline Sorier.
Merci.
You had plenty money in 1922. What you let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they going to put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't have been drifting from door to door. Why don't you do right like some other men do?
La voix de Lil Green, Why Don't You Do Right, c'est dans le ballet Palermo, Palermo de Pina Bausch qui sera à l'affiche la saison prochaine de l'Opéra de Lille dirigé par notre invitée ce matin, Caroline Sourier. Demain, nous recevrons Paul Lai, le pianiste qui s'inspire de Beethoven sur son nouvel album. On le découvrira avec lui au générique de Musique Matin. Aujourd'hui, José Bernès, U2, Diego Aclopès, Marion Guillemet, Margot Muller, Lara Castiglione et Taïsia Froidur. La réponse à notre jeu, on écoutait une grande symphonie tout à l'heure avec l'Orchestre National de France dirigé par Christiane Macellaro, et c'était la symphonie de César Franck, compositeur belge. Donc c'était la bonne réponse et non pas compositeur suisse. D'ailleurs, on n'aime pas beaucoup les Suisses ce matin. Émilie Minéra et Rodolphe Bruno Bonnier, bonjour. Vous avez suivi le match?
Bien sûr, on s'est couché très tard du coup avec tout ça, et en plus pour avoir une mauvaise nouvelle à la fin.
Mais ouais, on n'aimerait pas être Mbappé ce matin.
Non, pauvre Kiki. Bon, alors heureusement,
elle est droit au but dans la piste.
Deux légendes ce matin pour ouvrir en piste. Yo-Yo Ma et Emmanuel Axe dans des sonates de Beethoven.
Ah bah voilà des champions. Oui, à demain.
À demain.